RFI.
Alors, on dit quoi ?
Wassalam alaikum. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un portrait très atypique, atypique et inspirant d'ailleurs. Joël, qui est notre correspondant au Cameroun, a passé plusieurs jours aux côtés de Rahman Bidima. Cet ex-migrant est sorti de l'anonymat grâce à sa persévérance et son parcours qui font de lui un modèle de réussite pour la jeunesse camerounaise. Son credo, l'entrepreneuriat agricole. Il a en effet réussi là où plusieurs ingénieurs agronomes ont échoué, parvenir à tropicaliser et à cultiver pommes, fraises et raisins dans un environnement jugé hostile où les préjugés considèrent ces cultures parmi celles ne pouvant s'épanouir en Afrique subsaharienne. Mais avant d'en arriver là, il faut savoir que la vie de Rahman Bidima a été semée d'embûches, comme sa tentative d'immigration en Europe, la pauvreté, le chômage. La vie n'a pas toujours été rose pour cet autodidacte, et pourtant, portrait.
Alors on dit quoi ? Avec Diaran Djaï.
La vie de cet enfant n'a pas toujours été facile.
Nous travaillons sous les ordres de notre patron. Monsieur Bidima est notre grand patron ici.
Je le remarque en fait. Trop cool, trop réservé. Pas méchant.
C'est un monsieur très bien. Il nous donne toutes les possibilités de faire notre travail. Donc, pour les produits, pour l'accessibilité et aussi même beaucoup plus dans l'encadrement aussi. Il est un patron sensible et aussi compréhensif.
It's very strong.
Il est très fort pour les travaux champêtres.
It's the way he do his things. It's like when anything that is processed.
C'est un bon cultivateur.
Oui, parents, épouses et employés sont admiratifs du parcours de Rahman Bidima, cet ex-migrant devenu entrepreneur agricole très médiatisé au Cameroun. Derrière cette réussite apparente se cache une longue aventure parsemée d'échecs, de déceptions et même de tentatives de suicide. Notre balade débute à Yaoundé, précisément à Oyomaban, un quartier de la banlieue de la capitale camerounaise. C'est dans cette ville que vit sa mère, seul parent qui lui reste après le décès de son père, alors qu'il était encore tout petit. De passage, revenant d'un de ses voyages de consultation où il suit l'auverger d'un particulier à Ezeka, Rahman Bidima, la trentaine sonnée, trouve un peu de temps dans son programme assez chargé pour nous conter les souvenirs marquants de son enfance.
Jeune Camerounais, âgé de 33 ans, je réside dans la ville de Fumbot, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, depuis environ 10 ans. Je fais mes études primaires au Congo, au Niger, au Burkina Faso. Je reviens maintenant terminer les études secondaires au Cameroun, où j'obtiens le CAP en électricité. Avec les soucis de famille, j'ai dû arrêter les études parce que mes petites sœurs n'avaient plus de moyens pour continuer à l'école. M'étant rendu compte que je pouvais déjà être productif, je pouvais déjà générer des revenus, j'ai donc dit à ma maman qu'elle arrête de payer ma pension et qu'elle continue à payer la pension de mes petits frères.
Un enfant, un tout petit enfant, pendant la guerre, on a fait de lui un combattant. Il avait 10 ans.
Le premier secteur d'activité qu'il accueille après les bancs du lycée est la câble-distribution. Il travaille ainsi dans une entreprise spécialisée dans la distribution des signaux télévisuels par câble coaxiaux.
Je commence avec mes amis à faire les petits boulots dans l'installation des chantiers, des maisons en construction pour les travaux en électricité. Avec les difficultés du terrain, ce n'était pas facile de décrocher les grands marchés. Il fallait toujours avoir des relations, chose que je n'avais pas. Bon, c'est comme ça, tout doucement, je me reconvertis d'une société dans la ville de Yaoundé, dans mon quartier à Oumaban, qui faisait dans la distribution des images par câble. Je m'engage avec eux environ pour 3 ans. C'est ce qui me permet de générer plus de revenus, de faire des économies. Le travail en soi-même était payé de manière minable. Mon salaire de base, si je me rappelle bien, c'était environ de 15 000 francs CFA par mois. Mais on avait des avantages hors nature que le patron ne connaissait pas. Ils pouvaient nous générer 10 fois plus que notre salaire.
Ayant réussi à se faire quelques économies, Raman Bidima s'achète un véhicule et s'engage dans le transport en exerçant de manière clandestine.
Je travaillais de manière clandestine puisque je n'avais même pas le permis. J'avais juste la voiture, je travaillais de manière en cachette. Je travaillais avant que les policiers ne sortent en route pour faire le contrôle. Le matin jusqu'à 10h et le soir de 16h jusqu'à minuit 1h.
Là-bas.
Vint le déclic. Sous l'influence des médias, surtout de la télévision et du UDI, le jeune décide de tout laisser tomber pour un ailleurs, pensait-il, meilleur. Ce sera par la voie de la mer. Le port de Douala, le plus grand d'Afrique centrale, sera son point de départ. Malheureusement, cette tentative se soldera par un échec.
La première aventure, le déclic vient pendant que je suis en train de faire le transport de Brousse. Je côtoyais beaucoup de médias, je voyais toujours mes amis qui avaient réussi à l'étranger. J'ai donc décidé que bon, moi aussi je vais aller réussir en Europe. Je vais tenter l'aventure. C'est de là que je commence à me renseigner sur les modalités pour tenter l'aventure. La première fois, j'essaye par le grand port de Douala, mais c'est soldé par un échec parce que au port de Douala, il y avait beaucoup de gens mal intentionnés. Ils vous promettaient de vous mettre dans les bateaux et de vous faire partie moyennant une certaine somme. Lorsque vous leur remettez la somme d'argent, ils vous abandonnent dans le bateau et ils disparaissent. Ça s'est soldé par un échec. Avant même de sortir même de Douala, on m'a arrêté. Il y a environ de cela 12-14 ans, si mes souvenirs sont bien. Ça, c'était la première aventure.
Avant le départ, l'ex-migrant n'oublie pas de laisser un message à l'endroit de ses proches.
Lorsque vous partez, vous laissez juste une lettre. Bon, maman, quand vous allez lire cette lettre, c'est que je ne serai plus parmi vous, je serai en route pour l'aventure. Priez beaucoup pour moi pour que je réussisse à arriver chez les Blancs et après quelques temps, je pourrai vous envoyer les Mercedes et rentrer au pays de manière honorable.
Goodbye, goodbye, mommy and daddy.
Goodbye, goodbye.
Déterminé et attiré par les sirènes du rêve occidental, il décide pour une seconde fois de repartir. Ce sera toujours par les eaux. Suivant les renseignements qu'il aura glanés auprès de certains passeurs, le port en eau profonde de Kribi, dans le sud du pays, serait le point idéal de départ. Cette infrastructure portuaire fait partie de l'un des projets structurants mis en œuvre par le gouvernement camerounais afin de relancer son économie en 2011.
J'ai envie de repartir, de tenter la deuxième aventure. Je prends la peine de me renseigner et c'est là que tout doucement, de fil en aiguille, je me rends compte qu'il faut partir par Kribi. Oui, il y a plus de facilité là-bas à traverser pour aller en Europe. Bon, avec, je fais la connaissance de deux garçons qui aussi ont eu l'idée de partir. On se rencontre à Kribi, on fait une semaine. On est engagé, à ce moment-là, le port de Kribi était encore en eau profonde. Donc, on venait chercher les dockers à quai. Ils allaient travailler plutôt dans les bateaux en pleine mer. On s'engage dans l'équipe des dockers pendant environ une semaine. Cette semaine-là nous permet tout doucement de faire nos provisions, de faire nos cachettes dans les bateaux qui portent les billes de bois. En moins de 3 jours du départ du bateau, je précise bien que c'est avec la complicité de l'équipe des dockers du Cameroun, puisqu'on s'est fait engager, on a payé une somme à 3, environ 200 000 francs CFA par personne. On a fait nos provisions de nourriture, donc l'équipe savait que les 3 gars qui sont là, qui sont soi-disant les nouveaux, ce sont des aventuriers. Tout doucement, chaque jour, on entrait avec nos provisions, puisque quand les gars travaillaient, le matin, ils entraient avec leur nourriture et ils ressortaient seulement dans la soirée. Donc c'est comme ça qu'on faisait nos réserves de nourriture pour toutes les deux semaines que devait durer le trajet. Trois jours avant le départ du bateau, nous sommes restés dans les cales du bateau, ayant déjà localisé nos positions, fait nos réserves de vivres pour tout le voyage, les torches, les lampes, les habits de docker qui devaient nous permettre de sortir au port une fois à l'arrivée. C'est comme ça qu'on s'engage, le bateau prend la route. Normalement, d'après les dockers au Cameroun, les soutes devaient être fermées, closes et ouvertes uniquement à l'arrivée en Lampedusa. Bon, maintenant alors, un accident du destin a fait que deux jours après le départ, un des officiers naviguant dans le bateau est venu faire une inspection subite. Nous, on ne s'attendait pas à ça, puisqu'on était dans les profondeurs de la cale, entre les billes de bois. C'est là que malheureusement, il nous repère. Il fait appel au capitaine et on stoppe le bateau. On appelle les douaniers camerounais qui viennent nous chercher à bord.
Bienvenue, les ennuis. Heureusement, il échappera belle à un séjour en prison grâce à un coup du hasard.
Une petite histoire dans la deuxième aventure. Lorsqu'on nous attrape à Kribi, on nous ramène, on nous met en cellule. Les autorités portuaires nous arrêtent. Je garde un très mauvais souvenir du monsieur qui nous avait arrêté parce qu'il était trop sévère. On n'avait pas fait de bagarre, on n'avait rien volé. C'était juste la migration clandestine. Il avait décidé d'engager les poursuites judiciaires contre nous. On a fait une semaine en cellule à Kribi avant d'attendre le déferlement dans la ville de Douala, ville qui était sous la charge du port de Kribi à l'époque. On nous défait à Kribi, à Douala, une semaine après. On fait deux jours pour attendre les enquêtes et nous déférer à la grande prison de New Bell à Douala. Le jour où on doit faire le déferlement, la veille, on nous permet quand même de joindre un membre de la famille. J'appelle donc ma maman pour lui dire qu'il faut qu'elle vienne signer mon mandat de dépôt, qu'on va me transférer. J'ai fait une aventure qui a raté. Le coup du destin fait que le commissaire qui était chargé de signer mon mandat de dépôt était un des camarades de classe de longue date de ma maman. C'est ce qui me sauve de la prison de New Bell.
Ruiné, désespéré, Raman ne lâche pas prise. Malgré deux tentatives d'immigration soldées par des échecs, il décide de reprendre le chemin de l'Europe, cette fois-ci par la voie terrestre. Il choisira le chemin du Nord Cameroun, passant par le Tchad, le Niger et l'Algérie.
Je n'avais plus de moyens, j'avais vendu le véhicule, j'avais plus assez de moyens pour payer le trajet par bateau. Avec encore quelques amis, on décide de prendre la traversée du désert en passant par le Tchad, le Niger, l'Algérie et pour aller prendre le point de chute au Maroc. L'aventure nous laisse jusqu'au niveau de Menia où on nous a arrêtés. On nous abandonne presque dans le désert d'Agadez pour rejoindre l'Afrique du Nord, la frontière entre l'Algérie et le Maroc.
Malgré les difficultés d'un voyage risqué et les tristes réalités de celui-ci, notamment les multiples décès enregistrés parmi ses compagnons de fortune, causés par la déshydratation et les rançons très élevées à payer aux passeurs, de plus en plus exigeants, il fallait continuer. Les déplacements se faisaient surtout de nuit.
Avec toutes les tracasseries que vous pouvez imaginer, la traversée du désert, elle a été très difficile parce que comme guide, c'était un enfant d'une quinzaine d'années qui nous servait de guide à chameau. Les voyages devaient se faire en nocturne pour éviter d'être repéré par la police. Et par moment, le jeune enfant qui vous guide, un temps il se fâche, il veut rentrer, il décide de vous abandonner. Il faut que vous le suppliez, vous vous mettez à genoux en le qualifiant de Dieu. Tu es notre Dieu, si tu n'es ici là, on va se perdre. On a envie de l'arrêter, de le découper, mais c'est le seul qui connaît le chemin pour traverser le désert. Tout doucement, deux jours, on fait les escales dans des petites villes, on se repose et on prend la route, on traverse le désert de nuit, souvent accompagné d'étape en étape par ceux qui traversent souvent les déserts en convoi. Dans les grandes caravanes de dromadaires, on se fait habiller en tenue local pour ne pas attirer l'attention des autorités dans les petits villages où on traverse. On arrive maintenant à Menia, l'enclave espagnole en territoire marocain. C'est là-bas alors que la grande catastrophe, là-bas c'était vraiment très difficile. L'adaptation dans l'attente pour la traversée a été très difficile parce que là-bas, on a été buté par le fait qu'il fallait beaucoup d'argent. Il fallait vraiment beaucoup d'argent pour traverser. Et le Maroc, on n'a pas la possibilité de faire les petits boulots comme on faisait dans d'autres villes pour générer souvent pour certains passeurs 500 000, pour d'autres passeurs 650 000 environ, 1000 euros. Ça a été très difficile. Malheureusement, de là, les autorités nous renvoient à la frontière parce qu'abandonnés en même dans le désert, beaucoup de gens avec qui on a traversé sont décédés en route. Vraiment, ça a été très difficile.
Malheureusement pour lui, les portes qui mènent à l'Europe lui restent fermées. C'est par l'Afrique de l'Ouest que se fera le chemin retour. Rahman se contentera au passage de faire de petits boulots pour survivre.
Le retour ne s'est pas fait par les mêmes villes. On a traversé le Niger, arrivé à Niamey. Nous sommes passés par le Bénin où il fallait toujours faire les petits boulots pour trouver de l'argent pour rentrer au Cameroun. C'est comme ça que je traverse une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest pour revenir au Cameroun. Ça a été très, très difficile parce que vraiment les difficultés avec les autorités, n'ayant pas de papier, se cacher, faire les petits boulots, manger presque dans les restes des restaurants, faire la plonge dans les restaurants pour trouver un plat, pour trouver de l'argent, voyager dans les taxis brousse au-dessus des galeries, ça a été très difficile. Mais grâce à nous, nous sommes rentrés au Cameroun, Chine.
À son retour au Cameroun, Rahman Bidima est un homme moralement abattu, ruiné et très endetté. Sans aucun espoir, il tente de mettre fin à ses jours.
Je rentre donc au Cameroun moralement abattu, ruiné, à zéro franc. Ayant quand même une situation confortable avant le départ, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas, il était difficile pour moi de recommencer à zéro. Dans la ville où on m'a connu comme quelqu'un de bien, quelqu'un qui était déjà à l'aise, puisque j'avais mon studio, j'avais ma voiture, je vivais à l'aise.
Rahman reprend néanmoins goût à la vie. De commun accord avec sa mère, il s'installe dans le village de cette dernière, à Fumbot, dans la région de l'Ouest, loin de Yaoundé, la capitale, à près de 300 km de la ville où il vivait, à l'abri du besoin avant sa tentative d'immigration.
Aux prières du soir, et la nuit s'étend sur le village.
Au village, Rahman doit travailler pour survivre. Il commence comme pousseur au marché des vivres frais de Fumbot, marché très couru par des grossistes qui s'y ravitaillent et vont par la suite revendre dans les principaux marchés de Yaoundé, Douala et même du Gabon et de la Guinée équatoriale. Du fait de ses origines sudistes, de par son côté paternel, il sera surnommé sur place Ezaboto, en référence au romancier camerounais Alexandre Bidi Awala, plus célèbre sous son pseudonyme Mongo Betty.
C'est là maintenant que tout commence, la nouvelle vie. Arrivé donc au village, il fallait que je me reconvertisse, que je prenne d'abord le temps de me ressourcer. Dans ma dernière aventure, j'avais contracté une dette dans une tontine locale où maman avait pris une partie de l'argent et m'avait donné. Il fallait bien que je rembourse cet argent. Rentrant donc au village avec le moral à zéro, avec la pression de maman qui me demandait le remboursement de son argent, j'ai commencé donc à faire les petits boulots. J'ai commencé à faire les petits boulots vraiment au niveau zéro. J'étais à Fumbot, je vivais chez une de mes cousines, Awa, qui m'a hébergé pendant environ 6 mois dans sa belle famille où on vivait. Je commençais à faire les petits boulots. Chaque matin, je sortais, j'allais au marché, je gardais des économies. Après, il y a un boulot ici qu'on appelle au Cameroun les pousseurs. Ce sont des personnes qui travaillent avec les pousse-pousse qui arpentent les villes, les marchés pour porter les marchandises et les évacuer du marché vers la route où les commerçants peuvent continuer avec la voiture. C'est un métier vraiment, qu'on peut dire, niveau zéro dans la société. J'ai fait ce boulot pendant presque 5 ans dans la ville de Fumbot où j'ai eu une bonne réputation parce que j'étais très différent. Les gens avaient du mal à croire qu'un jeune garçon de bon gabarit, très beau, mignon, comme on me disait, avec la peau blanche, qui faisait ce travail dégradant. On m'a donc surnommé Isa Boto. Si vous vous renseignez bien dans la ville de Fumbot, qui était Isa Boto, on va vous dire, mais c'était le grand pousseur.
De pousseur à bagagiste, il n'y a qu'un pas. Raman s'engage comme chargeur de camions de vivres frais en partance pour les marchés sous-régionaux du Gabon et de la Guinée équatoriale.
Avec le travail qui prenait de l'ampleur, je n'étais plus au niveau de faire le pouce. Je suis allé travailler dans le grand marché vivrier où j'ai été en contact avec les Gabonais, les Guinéens qui venaient faire le grand marché pour des vivres frais dans la ville de Fumbot pour aller à Libreville ou à Kiosi. Le travail avec eux consistait à charger les camions. On allait dans les brousses, on chargeait les camions de patates, les camions de choux. On portait, on conditionnait ça dans les sacs, on portait à l'épaule et on mettait dans les camions. J'avais déjà acquis le statut de chef chargeur. Donc beaucoup de Gabonais qui venaient dans la ville de Fumbot m'appelaient pour venir charger leur camion parce que j'étais très sympa, je faisais le travail de manière honnête. J'ai acquis une très bonne réputation avec ces Gabonais.
L'activité de bagagiste l'amène à parcourir des contrées lointaines à la recherche de la marchandise pour ses employeurs. Pendant ses déplacements, Raman constatera la pénurie de certaines spéculations sur les étals des marchés. C'est cet état des choses qui l'amènera à nourrir des ambitions pour l'agriculture.
Le début a été un peu difficile parce qu'il était vraiment soldé par les échecs cuisants. Ma petite femme que j'ai rencontrée dans la ville de Fumbot pendant mes activités de pousseur, elle ne comprenait pas pourquoi chaque fois je voulais faire du travail de manière différente. Elle disait toujours, toi tu veux travailler comme les blancs. Pour faire les sillons, la culture par exemple du maïs, les gens font les gros sillons de manière villageoise, artisanale. Moi je voulais toujours faire comme un blanc. Il fallait tendre la ficelle. Elle me dit toujours, mais tu payes les gens d'abord pour tendre la ficelle, après tu payes les gens pour s'aimer. Pourtant, si tu fais les gros sillons et tu sèmes, ça ne pourra pas pousser. J'ai eu des problèmes sérieusement avec mon épouse parce qu'elle ne voyait pas que mais tu veux faire dans l'agriculture, tu n'as jamais appris. Je ne comprends pas qu'est-ce qui te donne subitement l'envie de faire, de devenir agriculteur.
Commence alors l'aventure d'agriculteur. Raman parvient à louer un espace arable et s'engage dans la pratique de l'agriculture. Les premières expériences sont sanctionnées par des échecs cuisants.
Étant un ancien aventurier entêté, je continue à peaufiner mes recherches. C'est comme ça que tout doucement, le succès commence à se présenter. J'améliore la qualité du travail. Je triche les techniques dans plusieurs grands bassins de production agricole que je mets en valeur à Fumbot. Mes petites plantations que je commençais à louer. Et il fallait en même temps que je fasse le chargement des camions pour avoir les CFA, pour pouvoir entretenir mes échecs, mes expériences que je faisais dans l'agriculture. C'est comme ça que commence tout doucement la passion de l'agriculture. En même temps, j'étais au marché les week-ends. Je faisais mes expériences de mise en valeur des cultures. C'est comme ça que j'ai appris tout doucement les techniques avec l'avènement du net accessible par le téléphone. J'ai appris, je me suis perfectionné.
Déterminé, le jeune agriculteur ne laisse pas les bras. Il lui vient alors à l'idée d'approvisionner le sol. Sa technique, bien que toute simple, est ingénieuse. Enrichit le sol nouvellement acquis grâce au compost.
N'ayant toujours pas la capacité financière pour faire l'achat dans des terrains dits fertiles ou les zones de travaux agricoles, je suis allé trouver un espace en savane, la savane qui était dite infertile, savane vierge, aride, où les gens faisaient uniquement la culture de la patate et du manioc qui ne nécessite pas d'entretien particulier. J'ai commencé avec presque 500 mètres carrés. J'ai voulu améliorer les techniques de travail. L'avantage que j'avais eu dans le marché en travaillant comme chef chargeur dans le marché vivrier de Fumbot, j'ai eu ma réputation, c'est que je me suis rendu compte que les déchets vivriers qui étaient produits chaque jour par les commerçants se transformaient en fumier et beaucoup de gens ne connaissaient pas la valeur. Je voyais toujours comment pousser les maïs, les patates, les melons dans ce fumier. Je me suis dit, tiens, si je parviens à avoir ce fumier, à le mettre dans mon site de Koutaba,
qui est une terre aride. Je peux avoir sensiblement ce rendement que je vois, comment les bonnes choses poussent dans la poubelle. Tout doucement, j'ai donc commencé à me mettre dans la recherche du fumier. Je creusais les décharges du marché vivrier en accord avec les éboueurs qui entassaient les déchets vivriers dans un coin du marché. Je creusais, je tamisais et maintenant, par camion, on allait déposer au champ. Ça me servait de fertilisant naturel. C'est comme ça là que j'ai eu ma réputation de dompter les terres arides. Je voulais toujours montrer aux gens qu'il n'y a pas de terre dite infertile. Il faut oser. J'ai vidé presque tout le fumier qui était au marché de Fumbo. Tout le monde me connaissait dans la ville comme celui qui creuse les poubelles. Puisque au début, limité par les finances, c'est moi-même qui creusais les poubelles. Le matin, je sortais avec ma houe, avec ma pelle, ma pioche et ma fourche, je creusais. Et le soir, je partais charger les camions. C'est comme ça qu'en une ou deux semaines, je pouvais livrer un camion avec la force que j'avais acquise dans le chargement. Je payais un camion, une benne qui partait verser le fumier dans le champ. Et c'est comme ça là que je mettais ça en valeur. J'ai eu de très bons rendements avec le fumier dans ma plantation de Koutaba.
Les prouesses de cet ex-migrant faisant de bons résultats dans le domaine agricole se propagent dans les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Très vite, il atteint le cap de 5000 followers sur sa page Facebook. Son image est utilisée dans le cadre d'une campagne d'affichage promouvant la lutte contre l'immigration clandestine dans les principales villes du Cameroun que sont Douala et Yaoundé. Les médias font large écho de sa réinsertion sociale réussie. C'est en ministère qu'il est reçu au Palais polyvalent des sports de Yaoundé à l'occasion d'un forum sur les dangers liés à l'immigration clandestine.
Où vas-tu, grand chauffeur, sur ce soleil brûlant, roulant à toute vitesse sur les pistes d'Yaoundé? Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale.
Ce jour, Raman doit présenter sa success story aux côtés de Thierry Niamen, l'un des manias de l'agroalimentaire au Cameroun, promoteur de la marque Tanti. À peine l'exposé de l'ex-migrant terminé, il est assailli par un groupe de jeunes curieux qui veulent davantage apprendre de son parcours. Commence alors un long échange avec un groupe de jeunes étudiants en marketing, communication et vente à l'Université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé autour des thèmes divers.
Par rapport aux photos que j'ai vues tout à l'heure, on voit les biens, je vais dire, kilométriques là. Est-ce que vous avez fait ça à la main ou avec une charrue?
Il y a des photos où je suis avec un vélo. Par souci d'économie, par souci de manque d'argent, j'ai eu l'ingéniosité de faire des recherches. J'ai mis au point un vélo qui permet de faciliter l'ardeur des travaux agricoles. Ça vous permet de faire les travaux de sarclage, de butage. C'est ce vélo qui m'a rendu célèbre. Quand j'ai fait ce vélo, le travail équivalent de ce vélo, c'est environ au travail de 5 personnes en une journée.
S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous n'aviez pas pensé à commercialiser ces vélos-là aussi? Parce que c'est une autre...
Les gens ont vu le fonctionnement, ils ont apprécié. Que ce soit professionnel ou amateur, quand ils ont vu, quand vous voyez comment ce vélo travaille-là, vous êtes subjugué par l'efficacité. Ouais. Pour beaucoup de personnes, j'ai monté des modèles. Aujourd'hui, je suis presque à la vente d'une centaine de vélos. Malheureusement, je ne me suis pas trop poussé, je n'ai pas accentué, puisque moi je voulais faire presque tout.
Vos produits qui sont produits dans vos plantations, comment est-ce qu'elles s'écoulent?
Je travaillais avec les Gabonais, les Guinéens. On venait à Fumbot acheter la tomate. Quand ça finissait à Fumbot, on partait à Santa ou à Bouda. Je me suis donc dit que pourquoi ne pas produire quand il y a manque de tomates? La loi de l'offre et de la demande, les prix grimpent. Le moment où il y a manque, qu'est-ce qu'il faut comme timing pour être dans cette période? Il faut produire à contre ces saisons. Ça veut dire que là maintenant, là, c'est le marché qui vient à toi. Quand on entend que la tomate est à 15 000 francs, on cherche tomate, on ne voit pas. On dit, mais tiens, monsieur Bidiman a la tomate. Tu n'as pas besoin de venir avec tes produits sur le marché pour discuter le marché, non. Et maintenant, pour déterminer ce timing de production, il faut que tu sois informé que bon, quelle est la période de production de la tomate au Cameroun? Quels sont les grands bassins de production de tomates au Cameroun? Quand eux, ils sont en train de récolter, ils inondent le marché. L'offre et la demande, les prix baissent. c'est à ce moment que toi tu entres en production. Dans la loi du marché, quand ils vont faire un mois, deux mois sur abondance, les prix sont au plus bas. Après le deuxième, troisième mois, ça commence à baisser. C'est à ce moment que toi tu commences, client, venez, j'ai la tomate. C'est eux qui viennent chercher la tomate.
Je veux un produit spécialement conçu par votre plantation. Est-ce que je peux facilement trouver ce produit? Parce qu'on a envie de prôner l'agriculture locale.
Là, on fait des ventes directes. Monsieur Bidima, un coup de fil, j'ai besoin peut-être de 50 tonnes de macabo, de pastèque. On dit, bon voilà, nous sommes en mesure de vous produire, soit pour un particulier comme vous, soit pour une entreprise, un restaurant, soit pour un hôtel. On peut faire des propositions de travail pour des productions bio à grande échelle.
C'est un reporter séduit que Désiré Etogo sort de l'exposé que vient de dérouler Raman Bidima.
Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est de voir ce parcours de combattant qu'il a eu entre Lampedusa et tout ce qu'il a connu après également comme raté, frustration également par là. Il n'a pas eu honte de rentrer chez lui et de rentrer au travail de la terre. Et ce travail de la terre là aujourd'hui a permis qu'il se fasse un nom. Particulièrement en écoutant son exposé et de comprendre par là qu'il a excellé et qu'il fait aujourd'hui une fierté de ce qu'on peut appeler entrepreneur agricole. C'est vraiment un exemple à suivre et pour moi, particulièrement, j'ai pas eu à rechigner. Je n'ai non plus eu à hésiter un seul moment d'aller vers lui, de m'entretenir avec lui et de voir également ce que moi, en tant que reporter, je peux essayer de faire. Parce qu'il faut bien le dire, notre travail au quotidien est de permettre à ce que des jeunes comme cela servent également des modèles d'inspiration à d'autres jeunes. Et puis bon, j'apprécie l'initiative et surtout le courage et l'audace de ces jeunes.
Yves Tiala, le président de l'association Solutions aux Migrations Clandestines et par ailleurs l'organisateur du G Forum, ne tarit pas d'éloges pour Raman Bidima, dont le profil et la réussite de réinsertion ne sauraient laisser quiconque indifférent.
Lui, c'est la cerise sur le gâteau parce que avec son expérience migratoire en plus, il correspond pleinement à ces différents profils de ce qu'on veut, justement de se dire que c'est pas partir à tout prix, à tous les prix, mais c'est aussi que si on n'a pas une bonne expérience de la migration, qu'on soit capable d'accepter, de se dire que ce n'était peut-être pas une bonne chose cette façon et de pouvoir se relancer sur place et développer un certain nombre de choses. Du coup, ça nous a paru vraiment indispensable qu'il puisse être là pour partager cette expérience-là. Parce que dans ces activités, on a des développements théoriques, on a plein d'autres choses, mais après, on a besoin aussi d'expériences pratiques, de témoignages de migrants, d'anciens migrants.
Retour à Fumbot, dans la région de l'Ouest. Le climat est nuageux. Il tombe des cordes de manière continue. C'est là qu'est installée la petite famille de Raman Bidima. Une famille qui lui apporte le soutien moral au quotidien. Les enfants Bidima reprennent en cœur toutes les spéculations qui occupent les journées de leur père.
Je m'appelle Soraya Bidima. La patate, le chou et le légume et basket.
À 2 ans seulement, Mansour, le Benjamin des Bidima, est moins précis au sujet des cultures de son papa.
Il y a basket, il y a maïs, il y a choux, il y a patates, avec les fruits, avec les poivrons.
Un ancrage agricole qui leur est aussi transmis par leur mère, Madame Bidima. Cette dernière a toujours encouragé son époux dans les travaux agricoles.
J'encourage parce qu'avant, ce n'était pas facile. Avec même le sac qu'il portait au dos là, ce n'était pas facile à lui. Après, il a seulement réfléchi que le champ, il est entré sur le champ comme ça là. On peut tester pour voir. Après, ce n'était pas facile. Même moi, je disais que l'aise, parce que quand il misait là, ça t'aidait. Avec même sa façon de sion là, j'ai que non, il faut qu'il fait nos sions de bambou. Donc c'est facile que non, je laisse, il fait comme ça là, c'est alors que ça sort. Ah, Après, ça a sorti comme ça. Si c'est le chou maintenant, non, on ne met plus le chou. Il faut mettre la patate. Il faut même miser partout, pas rien que la tomate, le chou. Il faut miser partout. On ne sait pas là où le bon va sortir. Monsieur Bidima, il est plus sur son téléphone avec le client, avec nous. Avant, c'était pas facile à moi. Je parlais, j'appelais sa mère pour dire que pourquoi ton fils dort sur le téléphone. Il y a quoi? Il dit que laisse.
Destination Koutaba, à une dizaine de kilomètres de Fumbot. Cette petite bourgade, majoritairement agricole, a la réputation d'abriter le centre d'instruction des commandos parachutistes de l'armée camerounaise. Il y a quelques années, Raman y a acquis un site en friche. Cet espace est aujourd'hui métamorphosé. Transformé et verdoyant, plusieurs cultures y poussent fièrement. Sur les lieux, l'ambiance est au travail. La vaste parcelle de près de 10 hectares, mise en valeur par Raman, grouille de monde. Ils sont plus d'une trentaine d'employés ce dimanche matin. Certains pulvérisateurs au dos s'activent au traitement de l'un des multiples vergers de tomates. D'autres, majoritairement des femmes, originaires des régions anglophones du Cameroun, s'occupent au sarclage des plantes indésirables. Nkouap Adamou est le chef de la production de l'exploitation agricole. Il nous montre volontiers comment fonctionne une machine à pulvériser.
Vous mettez le liquide. Une fois le liquide fait, bon, là, vous l'accrochez sur le dos. Et maintenant, elle a une pulvérisation beaucoup plus avancée. Donc là, il peut aller plus vite par rapport à une faible pression. Là, ça permet de faire vite une très grande surface en moins de temps.
À l'abri sous un arbre, son nourrisson entre les mains, Raïma Chimenye, jeune dame commise au sarclage, venant de Baba 1 dans la région du Nord-Ouest, nous explique son travail au quotidien.
My work is to move grasses in leaves with the cabbage.
Mon travail consiste à sarcler les choux, la tomate et les pastèques. J'utilise mon argent pour ma nutrition, mon habillement et le ravitaillement de la maison. Comme je suis nouvelle, c'est probablement en décembre que j'entrerai dans une tontine.
Because I'm just coming.
Le dernier passage du grand patron, comme on l'appelle ici, remonte à une semaine. Raman est presque toujours parti. Les employés passent le clair de leur temps sous les ordres du chef de l'exploitation, Jude. Ce jeune Camerounais, venu de la région du Sud-Ouest, en proie à l'insécurité due aux velléités séparatistes qui frappent les deux régions anglophones du Cameroun, se rappelle de sa première rencontre avec Raman Bidima.
J'ai commencé à travailler à Kribi. Après, j'ai quitté à Kribi, je suis parti chez moi à Boya. Sur le problème de la guerre, comme il y a la guerre là-bas chez nous, ça ne donne pas. Moi, donc, on a fui le problème de la guerre. Je suis venu à Yaoundé. Quand je suis venu à Yaoundé, j'avais un ami à Yaoundé qui faisait l'agriculture. Quand on a commencé à travailler après, j'ai trouvé un ami de Bijima. Le premier endroit qu'on a commencé à travailler ensemble, c'était à Yaoundé, au Bala. On a commencé à Obala à travailler avec Bijima. 2018, il m'amène maintenant ici à Koutaba.
C'est donc aux côtés de Jude que nous découvrons l'exploitation.
Ça, c'est le bloc 3. La tomate, le plus grand des blocs. Le troisième bloc est la tomate. Et la tomate, après le bloc ci, tu descends là-bas en bas, et au fond. C'est l'endroit où on a semé le concombre. On avait juste testé pour voir si ça peut donner. On ne savait même pas que le concombre donne ici. On voit que ça donne plus. On a envie de lancer pour mettre plus. Ce qu'on a semé. On est parti du champ de choux, le bloc D.
Le tour du propriétaire fait commence les orientations de la journée en direction des employés retardataires. L'espace aujourd'hui verdoyant, sur lequel poussent fièrement plusieurs types de cultures, ne l'a toujours pas été. Raman se souvient de ses débuts sur ce site. Il se rappelle aussi que c'est au cours de ses multiples travaux dans ce vaste domaine qu'il lui est venu l'idée ingénieuse de faire fabriquer un vélo. Cet outil de travail facilite le sarclage. Il en parle fièrement.
Dans les recherches que je faisais, j'étais un accro du net à la recherche du savoir dans l'agriculture. J'ai capté des techniques que les Européens utilisaient à l'époque. Ils utilisaient des petits outillages qui m'ont fasciné. J'ai essayé de m'inspirer de ça pour mettre sur pied un vélo agro qui permettait de faire l'entretien des cultures dans les plantations. J'ai adapté ces outils pour pouvoir les utiliser localement. Et Dieu merci, ça a été le succès. Avec l'aide d'un ami ferrailleur, on a monté le vélo, on a fait plusieurs expériences, toujours soldées par des échecs, d'où la colère de mon épouse, de ma famille, qui est toujours en train de faire les échecs. Ça a été un succès à la fin. Le rendement que je faisais avec ce vélo équivalait au travail d'environ 5 personnes en une journée. C'est là que j'ai réussi. Je me suis dit que bon, voilà, maintenant là, je ne vais plus trop dépenser de l'argent pour l'entretien des cultures. J'ai pu monter mon vélo que j'ai exposé sur Facebook.
C'est toujours sur ce site que lui vient l'idée folle de faire de manière expérimentale la culture des fraises, pommes,
j'ai essayé dans mes travaux agricoles, toujours l'homme qui fait les expériences par-ci, par-là, de mettre en œuvre des cultures dites occidentales, des cultures qu'on n'a pas l'habitude de voir à grande échelle au Cameroun, notamment les fraises, les raisins et les pommes. Quand je me suis lancé ce défi, les gens me prenaient pour un fou. On disait que ces choses impossibles, on a essayé ça, ça n'a pas donné. J'ai donc fait un essai sur la culture des fraises, qui a été un très grand succès. J'ai fait, il y a de cela environ 2 ans et demi, un essai sur la culture des pommes qu'on connaît communément au Cameroun sous le nom de pommes de France. Le succès a été au rendez-vous. J'ai testé entre 3 et 5 pieds de pommes qui ont eu du succès. J'ai testé aussi les raisins. À petite échelle, je précise bien, j'étais encore un jeune débrouillard. J'ai testé à petite échelle, j'ai eu du succès. Et c'est ça qui m'a lancé dans les réseaux sociaux. Bidima Raman, celui qui fait les fraises à Fumbot, celui qui a essayé la culture des pommes, celui qui a testé la culture des raisins au Cameroun.
À son tour, Raman parcourt l'exploitation, non sans rassurer le personnel de la disponibilité du matériel de travail. En bon manager, il réconforte au passage ses ouvriers. Une fois les récoltes effectuées, ne vous attendez pas à le retrouver dans un marché pour la vente du fruit de ses champs. Sa technique marketing a beaucoup été influencée par son passé de bagagiste à la gare routière de Fumbot, car au cours de cette activité, il s'aperçoit de la rareté de certains produits agricoles à certains moments de l'année. Ce qui l'amène à opter pour une agriculture de spéculation de contre-saison. Son riche carnet d'adresses auprès de 16 acheteurs sous-régionaux a su faire venir vers lui ses clients. En deux mots simples, il explique sa technique marketing.
Je suis le monsieur contre-saison. Je produis quand la demande est très forte. Donc, j'ai pas besoin d'aller au marché discuter les clients, si je peux parler ainsi. Quand moi je fais mes récoltes, c'est le marché qui vient à moi. Les clients me cherchent pour les achats de leurs vifs, qui est très rare, d'où la plus-value financière. Avec la référence que j'avais avec les Gabonais, les Guinéens, je sais qu'est-ce que le marché demande à telle période. C'est là mon secret de réussite.
Faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple, car l'humilité précède la gloire.
Malgré sa réussite apparente, Raman regrette néanmoins d'avoir été trop vite été mis en lumière par les médias.
Dans l'enthousiasme, dans le boom des réseaux sociaux, j'ai été porté trop haut, trop tôt. Beaucoup de gens me référaient des projets grandioses. Bon, avec la ténacité que j'avais, j'ai accepté les défis. On a fait beaucoup d'erreurs. J'étais seul à vouloir faire tout. J'ai été buté un peu dans la mise en œuvre. Je n'étais pas accompagné par des assistants. Je n'ai pas pu trouver des jeunes motivés, dynamiques comme moi, avec qui je pouvais m'asseoir, penser des projets. Ça me demandait beaucoup de travail. Je travaillais jusque très tard dans la nuit. Après avoir travaillé au champ jusqu'à 16 heures, je me repose à la maison jusqu'à 21 heures. Et entre peut-être 23 heures et minuit, je suis en train de travailler.
Par contre, il a su se faire son Eldorado à Koutaba. L'agriculteur n'est plus prêt à aller vivre en Europe. Si jamais on venait à lui donner cette occasion ou les autorisations qui le permettent.
Non, je dirais que ce serait plus possible. J'ai déjà une passion pour l'agriculture dans mon pays. J'ai envie de montrer à ces jeunes qu'ensemble, on peut aller très loin, on peut développer notre pays seulement avec la production agricole.
La vie de tout un chacun est tracée, on ne force pas le destin. T'as dit que tu seras président, tu le seras. La vie de tout un chacun est tracée, on ne force pas le destin. T'as dit que tu seras ministre, tu le seras avant de mourir.
Et s'il fallait se refaire, Raman Bidima estime être prêt à tronquer ses gants et bottes d'agriculteur pour renouer avec les banques. Question pour lui de pouvoir facilement allier théorie et pratique.
Je serais prêt à refaire les bancs, apprendre la théorie afin de coordonner théorie et pratique.
Ces cultures champêtres sont soumises aux aléas climatiques d'intenses pluies qui se sont abattues sur la région du Noun en général et à Koutaba en particulier. Ces derniers temps ont été un coup dur pour ces récoltes. C'est un Raman Bidima éploré qui témoigne quelques jours plus tard à notre micro.
Les dégâts que j'ai eus dans ma plantation à cause du facteur dame nature, pression énorme des pluies, difficulté de faire le traitement au moment opportun, m'ont beaucoup fragilisé. Sur le champ de la pastèque, nous avons eu une inondation due non seulement à la pression des pluies, mais aussi à la présence d'un lac qui s'est créé et qui est entré du côté du champ de pastèque. Nous avons perdu tout le champ de pastèque. Les pastèques qui étaient à presque un mois de la récolte. Pour la tomate, la difficulté était liée au fait qu'on ne pouvait pas accéder à la parcelle au moment opportun pour faire le traitement.
Malgré l'abondance des pluies qui impactent négativement sur ces cultures, Raman voit toujours grand et garde les rêves plein la tête.
J'ai un projet de créer une ferme où on pourra approfondir la formation de nos ingénieurs qui ont, je respecte bien, la maîtrise sur un certain domaine, mais qui ne sont pas prêts pour le marché de l'emploi. J'ai plusieurs fois fait le recrutement des ouvriers agricoles. Je reçois des ingénieurs agricoles, des jeunes qui ont fait dans l'agronomie, mais vraiment, je vous dis, le niveau est nul. Ils ne sont pas polyvalents. Moi, j'ai fait dans la polyvalence de l'agriculture. Ils n'ont pas cette maîtrise de la culture des oignons, de la culture des tomates, de la culture des choux, des carottes. Moi, je fais presque tout dans l'agriculture, puisque j'ai même osé et réussi des pommes, des raisins, des fraises. Mais eux, ils sont limités à un niveau. Ils ne veulent pas oser.
Des tentatives d'immigration clandestine ratées et tentatives de suicide avortées hier à entrepreneurs agricoles très célèbres aujourd'hui, très peu de personnes y croyaient. Sa mère, par contre, a toujours eu foi en lui et implore sans cesse le Seigneur pour que son fils, Raman, soit toujours au firmament. Beaucoup de prières sont régulièrement faites afin d'accompagner son fils.
Par la grâce de Dieu, il avait toujours cette ambition-là. Il voulait faire de l'agriculture, même sans moyens. Il voulait faire de l'agriculture.
Kwanzaa, I believe in you, I believe in Africa, j'ajouterais. En tout cas, nous le savons, les jeunes sont porteurs d'énergie, de vitalité et d'innovation dans le monde du travail et peuvent par conséquent avoir un fort impact sur la croissance économique et sur le développement social de la région. Fort de ce constat, nous ne pouvons qu'encourager et féliciter Birima et tous ces jeunes qui osent se lancer dans ce domaine. Alors on dit quoi? C'est terminé, merci à toute l'équipe de l'émission, Beverly, Daba, Mariam, Aïcha et Guillaume. Bonne suite des programmes sur RFI, Oublon Ragongol, à bientôt.